Cet épisode est rendu possible par Futurepreneur. Futurepreneur, c'est un organisme qui accompagne depuis plus de 25 ans les jeunes entrepreneurs de 18 à 39 ans à travers le Canada. Il offre du financement sous forme de prêts au démarrage d'entreprise, ainsi que le maillage à un mentor. L'an dernier, Futurepreneur a lancé une offre pour répondre aux enjeux spécifiques vécus par les jeunes entrepreneurs noirs au Canada. Ce programme a déjà accompagné plus de 200 d'entre eux à travers le pays et veut en aider davantage. Pour plus d'informations, rendez-vous sur futurepreneur.ca. Le lien est en description de l'épisode. Merci à Futurepreneur de soutenir la zone. Bienvenue. Vous entrez dans la zone, le podcast qui part à la rencontre de femmes créatives et inspirantes. Une semaine sur deux, une artiste, une entrepreneuse, une actrice de changement se raconte. On parle de son parcours, de ce qui l'anime, de sa zone de génie. On parle de son rapport à elle-même, au monde et aux autres. Aujourd'hui, à mon micro, Ikram.
J'ai l'impression que j'ai besoin de faire beaucoup d'efforts pour que ça marche. J'ai l'impression que c'est pas naturel, que c'est moins fluide. Et j'en parle à mon bras droit, qui est ma petite sœur. Et je lui dis, Salima, il y a un truc qui me... je sais pas l'expliquer, mais je sens que c'est la fin de l'aventure. J'ai pleuré, elle a pleuré, parce qu'on a vraiment un lien affectif avec cette boîte. Dès lors que j'ai eu ce cheminement spirituel et que je fais en sorte de toujours veiller à être là où mon créateur me veut, là où mon seigneur me veut, eh bien j'ai l'impression effectivement de recevoir des inspirations extraordinaires dans mon quotidien. C'est comme si ça venait à moi.
L'inspiration. Il y a plein de manières de l'appeler à soi, de la stimuler, de l'entraîner même et la faire grandir. On peut s'imprégner du silence et laisser notre esprit vagabonder. On peut se nourrir du travail des artistes et des artistes dont ils se sont imprégnés, eux. On peut se montrer curieuse de tout, contempler la nature et le ciel. Mais il y a quelque chose que je n'ai jamais évoqué ouvertement, publiquement, ou dans l'intimité de ce podcast, alors que c'est la manière même dont je conçois le monde. C'est de se réveiller avant l'aube et, dans le plus grand secret de la nuit, demander l'inspiration à la source, au divin, à ce qu'il y a de plus grand que nous. Ma relation à Dieu n'a pas toujours été apaisée. Longtemps, je n'ai ni compris ni questionné. À défaut de comprendre, j'ai tout renié. Et puis, en quête de sens, j'ai trouvé ma foi. À travers la philosophie, la sagesse et la beauté de l'islam. J'ai choisi de ne pas en parler d'abord parce que c'est quelque chose de profondément intime. Et surtout parce que j'avais peur. Peur de la peur dans les yeux de mon père. Peur de l'inquiétude dans ceux de ma mère. Peur d'être perçue comme aliénée alors que je me sens alignée. Peur que mes plus proches amis me croient perdue, alors même que l'on avance sur le même sentier, comme des sœurs d'une autre mère. Et puis, peur que vous me jugiez aussi, aussi irrationnel que cela puisse paraître. Et malgré tout, l'amour a été plus grand que cette peur. L'amour divin, l'amour de celui qui partage ma vie, l'amour inconditionnel de ma petite sœur et celui d'une poignée de femmes qui ont croisé ma route et qui ont donné une autre dimension au mot sororité. C'est tout cela qui m'a donné la force de m'avouer à moi-même que dans mes moments les plus sombres comme dans les plus lumineux, ma plus grande source d'inspiration reste mon lien immuable à Dieu. Alors voilà, avec Ikram, on a parlé de foi, de la sienne, de la nôtre. Et juste un an après son premier témoignage dans la zone, j'ai voulu comprendre la profondeur de sa spiritualité, ce qui l'avait poussé à rompre avec son entreprise Beautiful Mindset, à s'avouer que c'était terminé, à dire au revoir à ses employés, a supprimé même sa chaîne de podcast à succès pour reconstruire une autre entreprise, un autre projet, toujours guidé par l'inspiration divine afin d'inspirer à son tour. On a parlé de la façon dont sa spiritualité nourrit sa créativité, de l'équilibre entre les deux, et de lâcher prise pour aller vers ce qui nous appelle, naturellement, avec douceur, talent et apaisement. J'espère que votre cœur prendra abondamment ce qu'il y a à prendre de cette conversation. Un mot, un bout de phrase, un peu plus ou un peu moins. Quelque chose pour vous inspirer, pour résonner en votre âme. Et moi, je vous retrouve en 2023 pour le deuxième cycle de cette saison de la zone, le cycle du care, de la guérison et de l'introspection. Prenez soin de vous et bonne écoute. Bonjour Ikram.
Salut Emmanuel.
Bienvenue dans la zone, merci beaucoup de te joindre à moi dans ce dernier épisode de l'année.
Oh, c'est moi qui clôture l'année, j'en suis ravie et honorée.
Moi aussi j'en suis très très heureuse en fait de pouvoir échanger avec toi à nouveau.
Yes.
Ikram, tu es une ancienne juriste en droit des affaires et de l'entreprise qui est devenue entrepreneur. Tu as d'abord fondé Beautiful Mindset, c'était une entreprise de services qui accompagne les femmes musulmanes dans leur développement spirituel, personnel, émotionnel. Et aujourd'hui, tu accompagnes toujours des femmes musulmanes, mais en tant que business coach pour les infopreneurs en ligne principalement, donc celles qui vont vendre une expertise en ligne. Tu les aides dans leur stratégie d'affaires, mais aussi et surtout, tu les aides à développer leur mindset, leur état d'esprit, en les aidant à développer leur spiritualité pour la mettre au service de leur entreprise. Et par spiritualité, je parle ici de foi musulmane, puisque tu es musulmane, et donc c'est cela que tu partages, et c'est en fait ce que tu as toujours partagé. Alors, la première fois que je t'ai connue, c'était un peu par hasard sur Instagram, j'ai été saisie par la façon vraiment inspirée que tu avais de t'exprimer. J'ai été inspirée aussi par le fait que tu sois pile dans ta zone de génie, dans ta mission de vie. Et c'est pour ça d'ailleurs que je t'avais demandé de venir témoigner dans un premier podcast l'an dernier, à peu près à la même date d'ailleurs. Et puis un jour, tous tes épisodes de podcast concernant Beautiful Mindset ont disparu, tout simplement. Alors qu'ils avaient atteint, je pense, un peu plus de 60 000 écoutes à ce moment-là. Alors, tu as pris cette décision de tout supprimer. Pour tes auditrices, ça a été assez brutal, mais pour toi, ça avait été mûrement réfléchi. Tu opérais en fait une transition d'un business à un autre. Alors, pourquoi tout effacer pour reconstruire et quelle a été cette transition?
Yes, alors je te remercie de m'avoir aussi bien introduit. Si tu me permets juste, je vais revenir sur deux petits éléments avant de répondre à ta question. Alors Beautiful Mindset, ça n'a pas été ma première entreprise. Pour celles qui ont écouté le premier épisode, il y en a eu une autre avant du nom de Welcome City qui proposait d'héberger des personnes en déplacement dans la ville pour de la location courte et moyenne durée. Et ensuite, après Beautiful Mindset, il y a eu aussi une entreprise qui propose des produits issus de la médecine douce, en l'occurrence de la médecine prophétique, donc des produits de miel, de nigel, etc., qui s'appelle Siwah. Et puis là, c'est ma quatrième entreprise, donc voilà, pour celles qui ont suivi un petit peu. Et puis, pour répondre aussi sur un point que tu mentionnais, j'accompagne effectivement aujourd'hui avec Beautiful Business des entrepreneuses en ligne, à majorité musulmane, effectivement, puisque mon discours est très orienté suivant la psychospiritualité musulmane. Par contre, c'est pas toutes les entrepreneuses en ligne, c'est principalement les infopreneuses, c'est-à-dire celles qui vendent de l'information en ligne, de la connaissance, de la compétence, du savoir. Voilà, c'est tout ce type d'activité-là, parce que je sais que je suis beaucoup contactée, notamment pour des e-commerce, des prestations vendues en ligne, mais pour des prestations services physiques. Ça, c'est pas tout à fait mon credo. Voilà, j'ai choisi une niche bien spécifique. Alors du coup, pour en revenir effectivement à ce fameux mois de mai, je crois, 2020, où je décide un matin de me réveiller et hop, d'appuyer sur le bouton suppression. Je savais que ça allait faire un gros choc. Effectivement, à ce moment-là, j'étais à plus de 100 000 téléchargements même. Je crois que j'étais pas loin des 100, 120 000 peut-être. Donc, c'est une chaîne de podcast qui a magnifiquement bien marché. Et effectivement, elle a bouleversé la vie de pas mal de personnes qui sont passées par là. En tout cas, elle a contribué à nourrir leurs réflexions. En tout cas, j'ose l'espérer sur le plan intellectuel, mental et puis spirituel. C'était tout à fait le credo de cette chaîne de podcast. Je me suis beaucoup réparée à travers cette chaîne de podcast. Je le dis souvent, dans mon métier de l'infoprenariat, il y a beaucoup de choses qu'on dit, qu'on fait, mais qui permettent de mieux les ancrer en soi. Et quand on est dans le bien-être, ces choses qu'on peut dire haut et fort, eh bien, il faut savoir que ça a d'abord une action en premier lieu sur nous. Donc, à travers chacun de ces épisodes, je me suis construite, je me suis renforcée, je me suis beaucoup aussi réparée dans un premier temps. Donc, j'avais moi-même une attache affective immense, tu l'imagines, à ce podcast, surtout que mes premiers pas dans la quête de moi et dans la quête de la paix intérieure, elle a commencé par aussi l'écoute d'épisodes de podcast, tu vois, je suis très très fan de ce format-là. Et donc, effectivement, il y a eu un moment donné de ma vie où j'ai fait une grosse remise en question. Des événements ont eu lieu dans ma vie et ils ont fait que j'étais plus trop sûre du chemin que j'avais emprunté, des sources que j'avais pu nommer, des références auxquelles je renvoyais. Et puis, j'ai eu envie, effectivement, de me désavouer de ce que j'avais pu produire, non pas que tout était à jeter à la poubelle. Il y avait effectivement une bonne partie qui pour moi était à conserver, surtout sur les derniers épisodes, parce qu'ils étaient de plus en plus spirituels et beaucoup plus raccord avec notre spiritualité. Maintenant, effectivement, j'ai tâtonné quand j'ai cherché à me connaître, quand j'ai cherché à me comprendre, à comprendre ce que je vivais dans mon monde intérieur. Et quand tu fais cette quête-là, au départ, bien tu sais pas trop, en fait, finalement, si les process que tu utilises, ils sont raccord avec la spiritualité à laquelle toi, tu adhères. Et puis, tu te poses pas trop la question, finalement, parce que t'as tellement besoin de réponses que finalement, tout va bien pour aller mieux. Tu vois, c'était un peu ça. T'as tellement besoin de comprendre tes émotions, de comprendre ce que tu vis intérieurement, qu'on mette enfin des mots sur tes mots MAX, que finalement tu te demandes pas trop d'où ça vient, pourquoi, quelle est l'idéologie qu'il y a derrière, tu vois, toutes ces genres de questions-là hyper profondes, on se les pose pas nécessairement quand c'est limite névrotique, tu vois. Et puis tu chemines, tu grandis, et plus j'enlevais les couches du fameux oignon, tu vois, pour atteindre le cœur de ma personnalité, plus j'allais vers quelque chose qui me ressemble davantage et qui va dans le sens de ma spiritualité. Et donc, à mon sens, dans certaines formations dont je faisais la promotion, certains bouquins sur lesquels je m'appuyais, certains auteurs aussi, pour moi, étaient très orientés sur une spiritualité qui n'est pas celle que je veux servir et honorer, tu vois. Et pour cette raison, j'ai décidé effectivement de me désolidariser de tous les épisodes, même si les derniers étaient très orientés sur la spiritualité musulmane spécifiquement. Pour autant, j'ai décidé de faire un désaveu complet. Surtout que depuis plusieurs mois auparavant, mes premières amours m'appelaient. Tu l'as dit, je suis juriste de formation. En réalité, je suis juriste en droit des affaires et de l'entreprise. Donc, j'ai commencé dans la vie active par le domaine des affaires, tu vois. Et j'avais énormément de demandes de la part d'entrepreneuses, notamment musulmanes, qui me disaient « Mais Ikram, comment t'as fait pour bâtir une entreprise aussi solide et costaud en ligne, sans jamais rien connaître des réseaux sociaux au départ, en étant complètement novice ?» Je connaissais pas non plus le format podcast, hein, vraiment, je l'ai improvisé. Je tournais ça d'ailleurs de façon très
Mais ton ascension a été assez fulgurante. Je veux dire, moi, je t'ai connue à tes débuts et entre, je crois, de 2018, 2019 et maintenant, ça n'a rien à voir, quoi. C'est incroyable.
Ouais. Oui, c'est ça, j'ai énormément cheminé et c'est aussi le cadeau de ces métiers-là, tu vois, c'est que tu produis tellement de contenu, mais je pense que tu t'en rends compte maintenant avec tous les invités que tu as dû recevoir ici, c'est qu'on grandit à une vitesse folle, on se forme beaucoup, tu vois, on côtoie beaucoup de personnes et ça fait grandir d'une manière absolument extraordinaire, beaucoup plus que lorsqu'on reste cloîtré chez soi. Moi, je travaille de la maison, mais pour le coup, j'ai une fenêtre sur l'extérieur et sur le monde qui est assez impressionnante et je peux côtoyer toutes les cultures, toutes les origines, toutes les religions et ça m'a extrêmement nourrie. Et donc du coup, tu vois, mes premières amours, elles me rappellent très vite, je sens que on me demande beaucoup, comment tu fais pour en arriver là? Moi aussi, j'ai un business que j'aimerais faire connaître. Et c'était quoi tes tips, c'était tes astuces? Et donc souvent, je donnais des petits conseils comme ça et ça me faisait plaisir. Mais je me disais, tu vois, pour moi, je crois au destin, je crois au fait qu'il y a des signes un petit peu partout. Et d'ailleurs, c'est ce que nous dit Allah dans notre religion, c'est que tout en vous et autour de vous est un signe. Et finalement, si j'avais tout le temps comme ça ces demandes, c'est peut-être que il était temps pour moi d'aller ouvrir cette nouvelle page qui m'appelait, qui faisait du sens. Et du coup, je me suis dit, Ikram, tu peux pas ignorer ces signes qui viennent à toi. Et dans le même temps, je faisais ce désaveu, tu vois, avec tout ce contenu-là qu'aujourd'hui, dont j'ai plus envie de faire la promotion. Et puis, on parle clairement du développement personnel. Et puis, clairement, là, je me dis, OK, je pense que tout s'emboîte. C'est parfaitement cohérent. Ça a du sens. Et j'ai demandé l'avis de personne, en fait, si ce n'est de mes plus proches, de mes plus intimes. Même mon équipe, pour tout avouer, ce qui s'est passé au niveau coulisses, c'est le jour où j'ai supprimé les épisodes que je leur ai dit, tu vois. Parce que je savais que, mon équipe s'appuyait beaucoup sur mes épisodes, notamment, tu vois, en disant à certaines élèves, bon, on a travaillé tel axe, moi, je te recommande d'aller écouter l'épisode de Ikram aussi, il va nourrir ce que je t'ai dit là.
Oui.
Je savais que ça allait un peu les chagriner et qu'elles étaient peut-être pas aussi au même stade du cheminement aussi intérieur que moi j'ai pu avoir, parce que c'est finalement très personnel et intime.
Bien sûr. Et est-ce que tu as dû rebâtir une nouvelle équipe, ou est-ce que tu as formé ton équipe actuelle pour Beautiful Business?
Ouais. Alors du coup, il y a ce fameux jour où je supprime tout. J'annonce d'abord à mon équipe la nouvelle. Bon, forcément, elles comprennent pas trop. Je leur dis que je leur explique tout en réunion le lundi. Là, je crois que c'était un jeudi. Sur les réseaux, très vite, je m'exprime aussi en disant, voilà, vous trouverez plus aucun épisode de podcast. Très vite, les gens ont été vérifiés. Certains avaient téléchargé les épisodes. Du coup, ils restaient incrustés, tu sais, sur la plateforme. Puis, tu sais, quand tu supprimes sur la plateforme qui héberge, parfois, ça se propage pas partout. Donc, j'en avais certains qui me disaient, j'ai encore des épisodes. C'était incroyable.
Venez sur Spotify, il y en a encore.
Certains me disaient, je te dirai pas, mais j'en ai quelque part, je dirai pas où, j'attends de finir d'écouter, peut-être je te dirai. Ah non, mais c'était hyper drôle, je me suis dit, il va y avoir un commerce parallèle qui va se développer là avec mes épisodes. Pour dire, encore aujourd'hui, je reçois des messages à propos de B2 Mindset, et tu sais, j'ai même ma mindset coach là actuellement, je répondrai sur la question de l'équipe, mais qui me disait, Ikram, s'il te plaît, si t'en as gardé une trace, est-ce que je peux au moins avoir les derniers épisodes? Ils nous serviraient vachement quand même pour les clientes, parce que tu verras que dans Beautiful Business, on est encore très axé en termes de mindset et de psychospiritualité. Et je lui dis, non, par contre, j'ai des notes écrites de chacun des épisodes, et il m'est arrivé des fois de donner des notes écrites à mon équipe ou bien à mes clientes à qui ça pourrait servir. Donc pour répondre à ta question, ce jour-là où je supprime tout, pour moi c'est un nouveau départ, et c'était aussi du coup un mois plus tard le lancement de Beautiful Business. Donc moi dans ma tête je cheminais vers ça déjà depuis 6 mois, mais peut-être que j'aurais pas pris cette décision s'il n'y avait pas eu lieu de faire ce désaveu à ce moment-là. Donc je dirais que voilà, ça a été un timing parfait, et effectivement tout de suite l'équipe se pose la question, il va se passer quoi pour nous, parce que du coup tu désavoues les épisodes, tu veux te lancer dans le business, une bonne partie de l'équipe était intéressée que par le bien-être, pas nécessairement par le business, donc il y a une partie de l'équipe qui reste avec nous, une autre partie effectivement qui nous a quittés parce que c'était pas sa vocation que d'accompagner des femmes musulmanes dans l'infoprenariat. Maintenant, il y a effectivement dans ma proposition d'accompagnement un volet mindset et un volet stratégie business pure sur tout ce qui est commerce en ligne. Donc du coup, je reste quand même encore très très accrochée à aussi cette passion de la compréhension de l'humain et de sa psyché. Et c'est pour ça que d'ailleurs, tu peux trouver des épisodes de podcast encore hyper perché en spiritualité pour ceux qui en demandent, notamment l'un dont tu parlais tout à l'heure en off.
Oui, c'est l'épisode sur l'inspiration qui m'a aidé en fait à préparer notre conversation aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans cet épisode-là, tu parles à un moment donné de suivre sa voie égotique. Donc en fait, tu expliques que lorsque on se lance dans un projet, dans une entreprise, bref, que ce soit un projet artistique ou que ce soit de l'entrepreneuriat, et que c'est quelque chose qui va nourrir notre ego ou qui est là pour combler des blessures, ou en fait se venger, entre guillemets, prendre une sorte de revanche sur la vie par rapport à des blessures que tu as eues sur ton parcours, que ce soit des blessures comme qui se traduisent par l'abandon ou le rejet ou peu importe. Et lorsqu'en fait ce sont des projets qui sont là pour combler ces blessures-là, on suit notre voie égotique, donc notre voie de l'ego, au lieu de suivre la voie de notre âme. En fait, c'est un peu l'opposition entre l'ego et l'âme. Et je me demandais si, avec Beautiful Mindset, est-ce que tu penses que tu suivais en quelque sorte une voie égotique, parce que tu disais aussi quand même dans cet épisode de podcast que lorsqu'on suit une voie égotique, on ne va pas forcément être inspiré, on va plus être motivé, et la motivation vient de l'extérieur de nous alors que l'inspiration vient de l'intérieur. Et quand on suit une voie qui est la voie de notre âme, forcément on va avoir de l'inspiration parce que ça vient de l'intérieur. Mais toi, avec Beautiful Mindset, je veux dire, tu as... cartonné, enfin il n'y a pas d'autre mot en fait, j'essayais de trouver un mot un peu plus joli, mais non, c'est ça, c'est que tu as complètement changé le game du développement personnel et spirituel, parce que tu étais la première en France à proposer de la psychospiritualité, en fait, et à allier développement personnel et spirituel. Alors, comment est-ce qu'on peut dire que tu étais dans une voie égotique alors même que tu abordais des sujets qui venaient nourrir ton âme ? Peut-être que ce n'était pas le cas.
Ouais. Alors, pour moi, il n'a jamais été question de dire que Beautiful Mindset était une voie égotique pour moi. Alors, au niveau de l'opposition, pour recentrer un petit peu le sujet, pour moi, il y a une opposition effectivement à faire, c'est la nature saine de l'homme et sa nature égotique. Donc, nous avons effectivement ce double élan en nous, voilà, un élan très passionnel porté sur ce dont on a la sensation de manquer, les vides qu'on peut percevoir en nous, la sensation d'être incomplet, tu vois. Et ça, effectivement, on peut chercher à le remplir au travers d'un business. Il y a un sujet qui viendra d'ailleurs très prochainement sur le podcast où je vais expliquer ça, parce que je vois effectivement beaucoup de ces mécanismes chez mes entrepreneuses qui subissent notamment le syndrome de la sauveuse dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'elles lancent un concept comme ça, je vais sauver les femmes de ceci et puis je vais sauver les femmes de cela. On ne sauve absolument rien. Les premiers que nous avons à sauver, c'est nos âmes à nous, et à les purger, les purifier, les élever. Donc il y a effectivement chez l'homme une nature saine, profondément saine, et l'être humain, il suit sa raison d'être tant qu'il va bien et tant qu'on nourrit ses besoins, tant qu'on nourrit ses valeurs. Et puis un jour, on lui a peut-être plus donné d'attention, plus donné d'intérêt, plus donné d'importance, plus donné de considération à sa personne. Et puis il a commencé à se dire, peut-être que je ne suis pas assez, peut-être que je ne compte pas, peut-être que je ne suis pas valable, tu vois. Et quand on commence à se dire ça, on va créer des mécanismes qui vont permettre de susciter cette attention, susciter cet intérêt, etc. Et comme je te le disais, très tôt dans l'entrepreneuriat, je m'aperçois que, tu vois, dès ma première entreprise, Welcome City, je me rends compte que si je veux vivre de l'entrepreneuriat, va falloir que je fasse un travail sur mes émotions. Parce que, tu sais, tu as les premiers retours clients qui te disent « je suis pas satisfait », mauvaise note, mauvais commentaire sur Airbnb. Enfin, c'était hyper difficile pour moi à vivre. Et je me suis dit, attends, ça commence tout juste là. Si ça, déjà, je le vis mal, il va se passer quoi après? Donc, très vite, j'ai compris que si je voulais vraiment vivre de l'entrepreneuriat, il allait falloir que je travaille sur mes émotions. Donc, c'est ça, au départ, qui m'a amené à faire un travail sur moi. Et là, j'ai commencé à écouter des podcasts en développement personnel, effectivement, qui m'expliquaient ce que je vivais intérieurement et que personne n'était capable de m'expliquer. Donc, au départ, quand je commence comme ça à essayer de comprendre mes émotions, c'est pour servir l'entrepreneuriat, le fait surtout de plus jamais avoir à travailler dans le salariat qui m'oblige à enlever mon hijab, etc. Tu vois. Donc, c'est pour ces raisons-là que je commence ce travail intérieur, parce que je me dis, j'ai pas le choix là, en fait. Je vais être obligée d'être moi face à mes émotions. Et donc, le travail des émotions, c'est en fait le travail de guérir l'âme de ses bobos, tu vois, de ses blessures. Et donc, plus tu avances, plus c'est spirituel et plus c'est profond et plus c'est intellectuellement stimulant, tu vois. Et donc, quand je commence ce travail-là, je m'aperçois que j'ai du chemin à faire, qu'il y a beaucoup de blessures, notamment ma relation mère-fille, tu vois, qui avait très mal démarré très tôt dans ma petite enfance et qui m'avait créé des espèces de cassures intérieures. Et effectivement, l'entrepreneuriat était aussi une revanche, comme le diplôme était une revanche, comme réussir et arborer un bac plus 5 était un diplôme, tu vois, qui allait permettre de dire que voilà, je suis valable. Qui pour dire maintenant que je ne suis pas assez ? Donc c'était un peu me réparer. Effectivement, je me suis réparée à travers la réussite. J'ai voulu vivre aussi le rêve français de mes parents, tu vois, d'origine maghrébine. Donc finalement, je dirais que ouais, la réussite était pendant longtemps pour moi une façon de me réparer. Et au départ, quand je quitte le salariat pour l'entrepreneuriat, c'est surtout pour ne plus avoir à me déshonorer au niveau de ma tenue vestimentaire et vivre selon mon code éthique à moi. Mes émotions me rattrapent très vite. Je fais un travail sur mes émotions. J'ouvre une première boîte qui me permet de remplacer mon revenu de juriste. Et ensuite, je me consacre effectivement à une activité qui me stimule, Beautiful Mindset. Beautiful Mindset, au départ, pour tout te dire, aurait dû faire ce que Beautiful Business fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au départ, moi, je veux accompagner des entrepreneuses à elles aussi faire ce travail de gestion émotionnelle pour mieux servir leur projet pro.
Sauf oui, c'est vrai.
Oui, sauf qu'à ce moment-là, j'attire que des femmes qui vont mal, qui n'ont pas confiance en elles, etc., etc. Et donc là, je me dis, bon, je dis à ma business coach du moment, mais qu'est-ce que je fais là? Parce que c'est pas tout à fait elle que je vais aider. Ouh là là, des femmes dépressives. Bon, j'ai fait le travail sur moi, mais alors le faire sur elles, voilà, ça m'a toujours plu, tu vois, cet aspect psychique, etc. Mais le faire, non. Donc au départ, c'était pour rendre service à une ancienne cliente que j'avais accepté de prendre son amie en coaching. Et donc, quand je fais ça, je te disais, hein, je remarque effectivement, je me répare. Donc oui, Beautiful Mindset a eu ce double effet de me réparer. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis que c'était l'étape nécessaire, indispensable pour pouvoir ouvrir le projet business avec des bases solides en la compréhension de l'humain. Pourquoi ? Parce que je dis toujours que la réussite, c'est 80% de mindset et 20% de stratégie. Mais si tu es greffé de blessures, si tu portes des charges, tu vois, si tu es dans un faux self, comment tu veux briller dans l'entrepreneuriat ou dans n'importe quelle initiative ou entreprise ?
En fait, c'est seulement en regardant en arrière qu'on est capable de connecter de connecter chaque point, en fait, de notre parcours. C'est ce que tu disais. C'est ce que tu me disais l'année dernière et c'est ce que je lisais aussi récemment dans, dans un livre sur la créativité. Et comment est-ce que t'as su que c'était le moment de passer à autre chose ? Et pourquoi est-ce que parfois on s'accroche à une idée, à un projet, et c'est difficile de lâcher prise, on y met tellement de temps, d'énergie, d'espoir. Et toi, en plus, ton entreprise allait bien. Alors, comment on sait qu'il faut lâcher prise et passer à un autre pan de sa vie ou à un autre projet artistique, entrepreneurial ?
Ouais, alors là, ta question, elle est hyper pertinente parce que justement, ça me renvoie à un point que je voulais mentionner et que du coup, je n'ai pas pu te préciser, ça ne m'est pas venu tout de suite. Mais effectivement, pour moi, il s'agit d'être dans sa nature saine, dans son plein potentiel, dans ce qu'on a de meilleur à offrir aux autres. Et ça ne veut pas dire que dans notre ego, on n'a rien à donner. On peut avoir des choses à donner. Néanmoins, on risque d'avoir des attentes. On risque de le faire de façon un peu névrosée. On risque de le faire au mépris de sa personne et de ses besoins, voire parfois de ses valeurs, tu vois. Donc pour moi, vous n'êtes pas forcément tenu de rester dans une place ad vitam aeternam. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis sur Beautiful Business, je peux te dire que j'ai déjà en tête la suite. J'ai même encore deux coups d'avance sur ce que je vais faire après. Parce qu'un entrepreneur est un visionnaire. Oui, mes élèves vous le diront, il faut être très visionnaire et il faut savoir le coup d'après. Et c'est ce qui permet de prendre beaucoup de hauteur sur ce qu'on fait et de savoir que c'est qu'une étape. La vie n'est qu'une succession d'étapes et c'est effectivement Steve Jobs qui disait « Un jour, vous pourrez relier les points ». Il faisait ce discours-là à Harvard, il me semble, en leur disant « Ne vous inquiétez pas, un jour, ça fera du sens. Un jour, vous relierez les points. » Et tous les jours, c'est que des points, en fait. Et donc, moi, quand j'arrive à ce stade de ma vie où je décide de tout supprimer et de repartir sur une nouvelle page, en réalité, il y avait une période de down, tu vois, 6 mois auparavant, donc ce mois de mai que je supprime, mais au mois de décembre, tu vois, qui précédait, il y avait un truc qui tournait pas rond. Tu vois, j'étais en immersion business à Tenerife et je disais, j'ai l'impression que c'est difficile pour moi. J'ai l'impression que j'ai besoin de faire beaucoup d'efforts pour que ça marche. J'ai l'impression que c'est pas naturel, que c'est moins fluide. Et j'en parle à mon bras droit, qui est ma petite sœur. Et je lui dis, Salima, il y a un truc qui me... Ah, je sais pas l'expliquer, mais je sens que c'est la fin de l'aventure. J'ai pleuré. Elle a pleuré parce qu'on a vraiment un lien affectif avec cette boîte. Et elle me dit, mais tu peux pas me dire que ça s'arrête, Beautiful Mindset. Ça l'a délivré elle aussi, tu vois, cette boîte-là, et ça m'a réparé aussi. Et donc, elle me dit, mais tu peux pas me dire ça. Je lui dis, mais pour moi, si, la suite, c'est le business, je sais pas quand ni comment, mais peut-être que ce ralentissement et le fait que je dois déployer beaucoup plus d'efforts pour avoir les mêmes résultats, c'est peut-être que, quand t'es à l'endroit où tu dois être, c'est beaucoup plus fluide et naturel. Certes, il y a des efforts à fournir, ça demande de la persévérance, de la patience, de l'endurance. Néanmoins, pas tant que ça, tu vois. Et je pense que tant que j'étais au bon endroit, ça roulait plutôt bien. Et tant que Allah, pour moi, tu vois, mon créateur m'a voulu être ailleurs, autre part, eh bien, tu vois, il fallait que j'arrache un peu la réussite, tu vois. Et je sentais que c'était pas naturel. Et je me disais, mais tu vois, j'avais la question de qu'est-ce que je fais du podcast ? Et puis nos élèves, et puis l'équipe, et puis... Et puis en fait, tu vois, t'as ce bruit, et puis finalement tu dis, ok, je mets sous le tapis, on avance, on verra bien ce qui se passe, jusqu'à ce que t'as ce moment où, de rupture, tu vois, t'as ces fameux events dans la vie qui te mettent face à toi-même. Ok, t'arrêtes de te raconter des histoires, t'arrêtes de te mettre des œillères, maintenant il va falloir que tu regardes les choses en face. Donc je dirais que tu le sens quand c'est plus naturel pour toi d'être à cet endroit-là. C'est plus difficile, ça a moins de sens, tu fais plus d'efforts, tu dois davantage t'accrocher, te convaincre, t'as moins de plaisir à relever les défis, tu vois. Et tu vas peut-être vouloir rester dans ta zone de confort, tu vois, et te dire non, mais là, c'est bien, tout est installé. Mais à un moment donné, ça va craquer d'une manière ou d'une autre et ce sera une très bonne chose.
Mais néanmoins, ça... Je trouve que c'est difficile de différencier lorsque on a vraiment des freins qui nous montrent qu'on n'est pas du tout sur la bonne voie et des obstacles qui sont juste des étapes à franchir alors qu'on est sur la bonne voie, tu vois. Comment toi, tu as fait la différence entre les deux ?
Alors, c'est hyper intéressant parce que c'est une des premières questions, tu sais, quand les entrepreneuses, elles rentrent dans notre programme. Et qu'elles nous disent non mais moi de toute façon c'est simple, je veux tout raser, repartir de zéro, je veux plus entendre parler de ce business. Et en fait souvent on se rend compte que c'est juste une fuite parce qu'elle en a marre, parce qu'elle tourne en rond, parce qu'elle a essayé x et y coach, x et y méthode fabuleuse sur internet qui n'a pas marché sur elle. Et moi très souvent je leur dis attention que ce soit pas une fuite, ce que tu fuis va te rattraper. Donc c'est une question de beaucoup d'introspection à cet endroit-là et d'être hyper honnête avec soi. Et je me la suis posé la question, tu vois. Et c'est ce que je disais à Salima. Je disais, je suis pas sûre que si demain, les résultats repartent plus facilement, sans moins d'implication, moins d'efforts, je décide de changer d'activité. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. C'était un petit passage à vide. Et puis derrière, ça a été un petit peu relancé, tu vois, sans que je mobilise autant d'efforts et de ma personne. Donc, je sais très bien que j'aurais pu vivre encore très longtemps de cette activité. Mais pour autant, tu vois, c'était effectivement avec beaucoup plus d'efforts. Et je sentais que dans ma personne, il y avait quelque chose qui, voilà, comme si c'était moi, tu vois, qui bloquait l'élan de la boîte. Et effectivement, ça a tout à voir avec celui qui est à la tête de la boîte, tu vois. Donc, effectivement, il peut y avoir la tentation de fuir quelque chose parce que vos clients vous renvoient des choses, parce que ça a plus de sens pour vous aujourd'hui pour X ou Y raison. Voilà, il faut pouvoir questionner, en fait, ce qui est à l'origine de ça. Et c'est pour ça que, personnellement, je suis toujours accompagnée parce que aujourd'hui, j'ai la responsabilité d'une équipe. J'ai mes clientes aussi qui me font confiance. Et j'ai toujours personnellement un coach ou un business mentor qui me suit et qui m'interroge ce type de questions où l'ego, il peut carrément t'aider à te voiler la face, à te mentir. Donc effectivement, questionnez et assurez-vous que ce ne soit pas une fuite que vous êtes en train de faire parce que c'est plus confortable pour vous de tourner la page ou bien au contraire, vous y restez parce que vous voulez prouver quelque chose à quelqu'un. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai déjà vu. Où on se sent appelé ailleurs, on a envie d'y aller, mais parce qu'on nous a dit qu'on n'y arriverait pas, on veut quand même d'abord le faire et puis après peut-être passer à autre chose.
Ou alors, on veut vouloir être perfectionniste et donc peut-être finir ce qu'on a commencé avant de passer à autre chose, mais le fait de finir ce qu'on a commencé, ça peut être aussi un moyen de bien procrastiner.
Yes, le jusqu'au boutisme. Un jour, j'en parlerai aussi un de ces quatre, je pense, sur le podcast, parce que voilà, j'ai fait un podcast dernièrement sur le perfectionnisme et j'en parle de ces gens-là qui veulent aller au bout, dans le détail, qui veulent finir. Voilà, ça, c'est aussi quelque chose de très égotique et très passionné, tu vois. C'est des comportements qui, pareil, ont à voir avec ce qu'on veut que ça dise de nous, tu vois. Et en fait, ça, voilà, là, c'est une question de c'est quoi finalement qui est plus important pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que je suis en train de nourrir en ayant cette démarche-là, tu vois?
Ouais. C'est en fait, t'es en train de me décrire, donc je me sens totalement concernée. Ouais. C'est vrai que le besoin de perfection est totalement en lien avec ce que les autres pourraient penser de moi et la façon dont je veux que les autres me voient. Mais ça renvoie aussi à la façon dont je veux prouver que je suis digne de leur amour et de leur attention, tu vois. Donc c'est très compliqué à décortiquer et à déconstruire, en fait, pour ensuite faire des projets pour soi et qui vont nous nourrir soi et non pas justement ce genre de blessure-là. J'aimerais qu'on parle de spiritualité et de créativité. Tu es une personne donc très créative et c'est vrai que je ne l'avais pas dit en introduction que tu avais aussi monté deux autres entreprises, donc Siwa et Welcome City. Tu es donc pleine de ressources et tu oses tester, enfin tu prônes, tu vises l'excellence justement et non pas la perfection. Et je me demandais en quoi ta foi et le fait de cultiver une spiritualité t'aident à être créative et quel lien, quelle corrélation tu fais en fait entre la créativité et la spiritualité?
Alors, pour te dire, tu vois, c'est aussi une des choses qui me permet de répondre à une de tes questions précédentes. C'est un point auquel, pareil, je n'avais pas pensé. Là, ça me vient. C'est que, tu sais, quand je disais que j'avais besoin de fournir plus d'efforts, par exemple, dans mes débuts sur le podcast, j'avais besoin de faire de gros travail de recherche, tu vois. Parce que, bon, il y a le petit imposteur, bien sûr, qui titille toujours dans les débuts en tant qu'entrepreneur. Et puis, il y a aussi ce truc de chercher les ressources à l'extérieur de soi plutôt que les chercher à l'intérieur. Quand tu es dans ta zone d'excellence, ta zone de talent, ta zone de génie, tu as besoin de nourrir, tu vois, ce qui existe déjà intérieurement, mais tu n'as pas autant besoin de consacrer de temps à ce qui existe déjà, tu vois. Maintenant, ce que j'explique effectivement souvent, c'est que l'être humain, il est un petit peu présomptueux. Au départ, l'être humain, selon moi, et selon notre spiritualité musulmane, il ne crée rien. Il ne crée rien, il crée à partir de ce qui existe déjà. Si tu regardes, par exemple, les avions, hein, ils se sont beaucoup basés sur l'oiseau, tu vois. Oui. Donc, au départ, l'être humain, il part de ce qui a déjà été créé. Et le postulat en islam, c'est de dire que c'est le créateur qui est créateur de toutes choses, donc notre Seigneur, et que nous nous contentons que d'imaginer à partir de ce qui existe déjà.
Mais d'ailleurs, attends, je veux juste faire une petite parenthèse, parce que ce que tu dis, c'est quelque chose qui est dit aussi de la part de des personnes chrétiennes. Je lisais un livre d'Austin Kleon sur la créativité qui s'appelle Still Like an Artist, et lui il cite la Bible en disant que on peut pas créer comme ça, enfin du néant, en fait c'est pas possible. La preuve, voilà la Bible. Et en fait, même pour les personnes qui ne croient pas forcément en Dieu ou un être supérieur, essayez d'imaginer quelque chose à partir de quelque chose qui n'existe pas. C'est impossible, à partir de rien, c'est impossible. Donc...
Nous, on croit que notre Seigneur est le créateur de toutes choses et on croit qu'il a façonné nos cerveaux d'une manière qu'ils ne peuvent pas, physiquement, intellectuellement, etc., se représenter ou s'imaginer quelque chose auquel ils n'ont pas accès. Donc, ils vont partir à partir de l'existant, pouvoir faire germer une idée nouvelle. Et même ça, dans notre croyance, nous croyons fermement que c'est Allah chez nous qui nous inspire à ces idées-là dont nous avons besoin pour vivre en harmonie et en paix les uns avec les autres. Du coup, quel est le lien que je fais avec la créativité? C'est que dans mes débuts, effectivement, j'avais besoin de m'inspirer énormément, de faire de gros travaux de recherche pour mes podcasts, d'aller chercher ici des spécialistes ici et là. Et puis aujourd'hui, je dois avouer que mes épisodes de podcast, ils viennent tout seuls, ils sont beaucoup plus fluides. Ils durent sur une petite vingtaine de minutes parce que j'ai plus autant besoin de me justifier dans mon propos. Voilà, il y a un grand chemin qui a été fait, le cheminement qui a été fait en réalité entre ce que je pouvais produire il y a 3 ans en épisode de podcast et ce que je peux produire aujourd'hui, c'est juste un cheminement spirituel, tu vois. Dès lors que j'ai eu ce cheminement spirituel et que je fais en sorte de toujours veiller à être là où mon créateur me veut, là où mon Seigneur me veut, eh bien j'ai l'impression effectivement de recevoir des inspirations extraordinaires dans mon quotidien. Alors attention, je dis pas que c'est pas parfois teinté de l'ego, bien sûr que mon ego est là, je suis comme tout un chacun et parfois effectivement l'ego vient y mettre sa petite touche. Cependant, j'ai l'impression effectivement que c'est beaucoup plus facile pour moi aujourd'hui de produire du contenu. Et c'est là que je m'éclate dans ma boîte actuelle, c'est que vraiment je me dis c'est comme si ça venait à moi, tu vois, et que finalement l'effort que j'ai à faire c'est de toujours rester très connecté là-haut, très connecté verticalement, et surtout quand il y a cette quête d'excellence, parce que chez nous en islam elle n'est pas optionnelle, tu vois, l'excellence n'est pas une option, c'est effectivement quelque chose que nous avons à cultiver dans notre spiritualité. Dieu nous a voulu la communauté de l'exemple, de l'exemplarité. Et donc, qu'est-ce que l'exemplarité? Ben, c'est faire preuve d'excellence, de pertinence, suggérer toujours ce qu'il y a de mieux, proposer de ce qui se fait de mieux, tu vois. Et donc, pour moi, c'est pas optionnel d'être excellente. Et là où avant, effectivement, je pouvais être très orientée réussite, mais alors c'était quelque chose de très égotique qui nourrissait un vide intérieur, un besoin de reconnaissance non comblé, etc. Aujourd'hui, effectivement, la quête, j'essaye autant que possible de l'assainir pour qu'elle soit surtout une recherche de satisfaction verticale pour honorer ce que mon créateur a placé en moi comme aptitude, facilité, comme connaissance, et j'essaye autant que possible de me rendre disponible, tel un réceptacle, à ce qu'il peut y placer dans ma zone d'excellence pour que je puisse dispenser de tout ce qu'il me donne à méditer, à comprendre, à introspecter et en faire profiter ses humbles serviteurs. Tu vois, vraiment, c'est ça, mon but. C'est de dire, si je suis là où je dois être et que je fais cette fonction de réceptacle de « Ok, donne, fais descendre sur moi ce que tu as besoin que je partage aux uns et aux autres afin qu'on puisse vivre en harmonie », eh bien, faire son rôle de réceptacle et puis ensuite de diffuser cette parole-là, non pas pour s'entendre parler soi, mais pour faire vivre à travers soi la parole de Dieu et aussi s'en imprégner soi-même. Déjà le propre dépositaire de sa parole, tu vois.
Alors, j'ai deux questions pour toi parce que je sais qu'il y a certainement des auditrices qui t'écoutent et qui se disent « Mais alors, qu'est-ce qu'elle fait concrètement ? Elle s'assoit en tailleur et puis elle ferme les yeux et elle attend que, elle attend que l'inspiration lui vienne. » Ça, c'est ma première question. Quelles sont les causes, quelles sont les actions que tu fais en fait pour être en état de recevoir des idées et de recevoir de l'inspiration? Et aussi, ton propos me fait penser à ce que Elisabeth Gilbert, dans un livre qui s'appelle « Comme par magie », elle disait que les idées sont toujours là et on va choisir de les incarner ou pas, et qu'en fait, il faut avoir une certaine posture pour pouvoir les incarner. Et ça me renvoie à ce qu'une autre femme m'a dit, qui s'appelle Marie Amiot, qui a une école de la créativité, et elle explique que la créativité, c'est une posture qui est à la fois physique et mentale. Mais dans tout ce que j'entends autour de moi sur la créativité, cette posture-là, elle vient surtout de la tête, c'est-à-dire qu'on doit avoir l'esprit vide, on doit avoir notre esprit dégagé, pas encombré d'un contenu qu'on analyse sans cesse pour pouvoir justement laisser libre cours à nos pensées. Alors que toi, tu parles du cœur comme étant un réceptacle pour recevoir l'inspiration. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça veut dire concrètement, le fait que le cœur soit un réceptacle, et aussi quelles actions tu fais pour être en état de recevoir?
Alors, je pense qu'on se rejoint pas mal avec ces personnes qui ont partagé toutes ces analyses. Je pense que dès lors qu'on nourrit une certaine spiritualité, on en vient tous à la même conclusion, finalement, peu importe ce à quoi on croit. C'est pourquoi tu trouveras effectivement beaucoup de redites chez les différentes personnes qui adhèrent à ça. Donc, pour ma part, effectivement, je parle beaucoup du cœur. Néanmoins, ce que j'aime bien dire, c'est que il y a plusieurs systèmes cognitifs chez l'homme. On a tendance à, de façon très occidentale, à l'attribuer au cerveau, à penser que tout se produit au niveau du cerveau, que les idées, boum, elles fusent dans la tête. Non, ça ne se passe pas uniquement au niveau du cerveau. Il y a effectivement l'esprit qui entre en action, il y a le cœur, il y a aussi l'âme, et il y a aussi ce souffle en nous, tu vois. Donc nous, si on revient aux fondamentaux de la création de l'homme, Allah, chez nous, on dit qu'il a façonné Adam alayhi salam, le premier homme, et qu'ensuite, il lui a insufflé de son esprit. Et une des choses à laquelle les gens ne font pas suffisamment attention, c'est que nous avons tous en nous un souffle divin. Et ce souffle divin, il a besoin de s'épanouir pleinement en nous. Et malheureusement, les gens ont du mal à s'en souvenir, tu vois. C'est pour ça que nous, on dit vivre dans le souvenir de Dieu, vivre au maximum dans le recueillement, qu'on appelle khushu' en arabe. Et donc, du coup, aujourd'hui, on a des personnes qui pensent que tout se passe dans leur tête. Effectivement, mais la tête, c'est la dernière dimension, j'ai envie de dire, cognitive de l'homme, tu vois. Donc, pour les personnes qui ont suivi Beauty Mindset, elles le savent. Elles ont démarré chez nous en travaillant d'abord sur leur cognition qui se passe dans la tête. Puis quand tu avances au niveau de la cognition, tu comprends qu'en réalité, le plus grand système cognitif de l'homme au niveau physique, c'est au niveau du cœur. Tu vois, c'est le cœur qui a moins de neurones que le cerveau, qui réagit beaucoup plus vite, qui pense plus vite, qui mémorise plus, qui se rappelle des sensations. Le cœur ressent, mémorise et se souvient, tu vois. Donc, il se passe beaucoup de choses au niveau du cœur. Donc, effectivement, l'une des premières choses, à mon sens, c'est de faire taire le bruit mental, comprendre comment on vit les expériences et comment est-ce qu'on les analyse. Mais une fois qu'on a travaillé sur le bruit qu'il y a dans la tête, il y a un autre niveau de bruit à gérer. C'est le niveau de bruit qu'il y a dans le cœur, puisque le cœur est un organe réceptacle, effectivement, et Dieu se situe entre l'homme et son cœur. Néanmoins, ce qui a donné vie à Adam alayhi salam, c'est pas tellement son cœur, c'est le souffle. Une fois que Dieu lui a insufflé de son esprit, il est devenu vivant, tu vois. Donc, ce qui nous rend particulièrement vivants, c'est d'entretenir ce souffle en nous, de le maintenir en bon état de santé et de vitalité spirituelle. Et donc, effectivement, je m'assois pas en éventail. Ce que j'essaye de faire, en revanche, c'est au-delà de la pratique religieuse qui est très liée au faire. Tu vois, je dis souvent que les cinq piliers de l'islam, c'est faire l'attestation de foi, c'est faire la prière, faire l'aumône, faire la zakat, l'aumône légale, faire le pèlerinage. Tu vois, c'est dans le faire. Et en fait, ce que j'ai juste déjà commencé par faire, c'est ajouter la dimension intérieure à ce faire. Parce que si on est juste dans le faire, c'est-à-dire au niveau de la matérialité de l'être physique, et sans y mettre l'intentionnalité, sans y mettre la présence d'esprit dans sa prière, par exemple, ben, il ne se passe pas grand-chose pour toi. Il y a toujours un versant intérieur et extérieur à un acte d'adoration. Moi, pendant très longtemps, je disais, tu vois, l'attestation de foi avec ma langue. Je faisais la prière, mais intérieurement, je ne faisais pas la prière, tu vois. Donc, dès lors que tu actives comme ça l'adoration intérieure, eh bien là, déjà, tu vis quelque chose spirituellement qui est différent. Là, tu vois effectivement ton esprit s'apaiser. Là, tu vois ton cœur se reposer et pouvoir petit à petit cheminer vers sa fonction de réceptacle du message, d'abord divin, donc le message qu'est la révélation, et ensuite tu peux avoir d'autres messages absolument extraordinaires qui vont te guider, notamment sur là où tu as ta lieutenance sur terre. Parce qu'un des postulats qu'il faut comprendre en islam, c'est que nous sommes tous ici pour être utiles les uns aux autres, et nous avons, à travers une certaine mission, à veiller à ce qu'on puisse vivre en harmonie les uns avec les autres. Et donc, personne ne peut être inutile ici-bas. Donc, il s'agit de trouver ce dans quoi je peux être utile pour adorer de cette façon mon Créateur, aussi récupérer ma subsistance, donc ici les moyens de vivre, hein. Ensuite, servir aussi les autres. Parce que là où le Créateur nous aime le plus, c'est quand nous nous rendons utiles aux autres, tu vois. Donc, pour pouvoir observer ce rôle de lieutenant sur Terre qui fait son petit job qu'il a à faire le temps de sa vie sur Terre, eh bien, il faut pouvoir être réceptacle, notamment de ce message divin où Allah te guide finalement sur là où tu dois être, à faire la bonne chose de la bonne manière. Et il t'accompagne. Et là, tu es effectivement dans un état de réceptivité de cette fameuse inspiration qui peut venir à l'homme.
C'est extrêmement... Enfin, je t'écoute et tu es tellement spirituel, Ikram. Je ne sais pas si... Enfin, je pense que c'est un épisode qui, pour certaines, va devoir être écouté plusieurs fois pour essayer de commencer à comprendre. Mais j'invite vraiment aussi les personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas... Qui ne partagent pas voilà, la foi musulmane ou qui peut-être ne croient pas en Dieu, à quand même être ouverte d'esprit et à essayer de comprendre parce que c'est une ouverture qui, moi, m'a beaucoup aidée et qui, toi, vraiment te fait... enfin, quand je te vois parler, je sens en fait ton épanouissement. Je sens que tu es vraiment à la bonne place et c'est ce à quoi on aspire tous et toutes, en fait. Enfin, du moins, les personnes qui écoutent ce podcast, je l'espère. Et j'avais une dernière question avant de passer à la question rituelle du podcast. C'est le fait de trouver l'équilibre entre notre quotidien, notre créativité, le fait qu'on ait beaucoup de projets, des hobbies, etc., et notre spiritualité. Il y a un mois, je suis partie en chalet avec des filles pour faire une retraite spirituelle, justement. Et sur la route, il y en a une qui me disait « Mais en fait, on ne devrait pas avoir à faire des pauses dans notre vie personnelle pour nous recentrer sur notre spiritualité. » C'est dommage en fait de devoir se séparer de tout pour pendant un week-end se centrer sur notre spiritualité alors que ça devrait justement faire partie de notre quotidien et on a du mal en fait à trouver cet équilibre là. Et toi, je me demandais en tant que chef d'entreprise qui est beaucoup 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 occupé, je veux dire ça a été long avant qu'on trouve une date pour cet enregistrement, comment tu fais pour balancer les deux, pour avoir ce constant équilibre entre le développement de ta spiritualité et le développement de ton entreprise, de tes projets, de tes hobbies aussi peut-être, en fait, de ta vie créative.
Bien, je pense que la réponse, elle est un petit peu dans la question, là, ici, c'est que tout ne fait qu'un dans ma vie. C'est-à-dire que ma plus grande passion, c'est la spiritualité. Ma distraction, c'est la spiritualité. Mon travail, c'est la spiritualité. Mon podcast, c'est la spiritualité. Je pense que c'est l'un des plus grands défis de l'homme, c'est d'arriver à s'unifier, à ne faire qu'un avec son moyen de subsistance. Donc chez nous, effectivement, ce qui va nous permettre de vivre, nos subsides. Trouver, effectivement, s'unifier avec ses loisirs, tu vois, s'unifier avec les uns et les autres, tu vois. Aujourd'hui, ça va être très difficile pour moi, tu vois, d'avoir une amitié dans laquelle je ne vais pas pouvoir aborder la spiritualité. Je vais pouvoir laisser passer peut-être un jour, deux jours, et puis au bout d'un moment, ça va venir parce qu'il faut que je me morde la langue pour ne pas dire, tu vois, pour ne pas développer une notion spirituelle, tu vois.
Parce que c'est ton prisme aussi, c'est la façon dont tu conçois le monde.
Ouais, et je pense qu'en fait, dès lors qu'on s'est trouvé, on devient inévitablement habité par ça et c'est très rare de s'en séparer. Non pas que j'ai pas des moments de distraction, des moments de légèreté, etc. J'en ai, hein. Maintenant, tu vois, il y a forcément un lien spirituel qui va se faire. Ah oui, ça c'est vrai que je l'ai lu dans le Coran. Ah, et puis ça me rappelle à l'histoire de tel prophète, tu vois. Il y a souvent un lien comme ça qui est fait. Et parfois, aujourd'hui, dès que je me retrouve à faire des nuits blanches où je dors pas beaucoup et que du coup, le lendemain, j'ai envie de mettre des baffes, tu vois, c'est que j'ai passé ma nuit, par exemple, à regarder du contenu là-dessus. Ça m'a tellement nourri que je suis capable de... Tu vois, alors qu'avant, c'était sur une série Netflix que j'étais capable de faire ça, tu vois. Aujourd'hui, si je traîne la nuit, ma meilleure amie, elle me dit « Qu'est-ce que t'as fait hier soir ? T'as encore regardé de la spiritualité, c'est ça ?» Oui, c'est ça, tu m'as pris la main dans le sac, tu vois. Et ça, c'est génial. Honnêtement, c'est ce qui m'a été donné de vivre de plus extraordinaire, c'est quand tu ne fais qu'un. Tu vois, c'est ce que je disais dernièrement sur Instagram, c'est que quelqu'un qui est vraiment dans sa mission, qui est vraiment là où il doit être, qui est vraiment dans cette lieutenance-là qu'il a incarnée sur Terre, il ne pourra pas s'éloigner trop longtemps de sa mission, tu vois. On me demande comment je fais pour être régulière sur Instagram, régulière sur le podcast, mais ce n'est même pas une question pour moi, parce qu'en fait, c'est juste évident, c'est je fais juste ma raison d'être, tu vois. Et tout ce qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit. Donc en réalité, soit vous êtes sur le chemin de ce pourquoi vous avez été créé, soit vous n'y êtes pas et vous allez vous autodétruire. Et vous allez voir des gens développer des addictions, développer des mécanismes de déviance, de méfiance, des processus autodestructeurs, de procrastination, d'éparpillement et de que sais-je encore, tu vois.
Ouais, et ça, c'est quelque chose qu'on voit, en fait. On en a des exemples partout, je veux dire, même des personnes qui ne sont pas forcément croyantes, quand on voit qu'elles sont vraiment sur leur X, sur leur mission de vie, enfin, c'est même plus vraiment un... C'est pas vraiment un effort, en fait. C'est juste qu'elles sont... Enfin, elles sont habitées par, par ce qu'elles font, par le sujet qu'elles traitent et par le projet dans lequel elles sont. Le podcast s'appelle La Zone, en référence à la sortie de sa zone de confort et à l'entrée dans sa zone de génie. Alors toi, Ikram, qu'est-ce que tu as laissé dans ta zone de confort depuis la dernière fois, depuis Beautiful Mindset? Et qu'as-tu trouvé dans ta zone de génie cette fois-ci?
J'ai laissé dans la zone de confort le regard des autres, tu vois. Le regard des autres, je ne pensais pas y être aussi sensible. Et aujourd'hui, je dirais que ben, finalement, quand j'ai décidé de tourner cette page, tu vois, et d'ouvrir la page Beautiful Business, bien finalement, c'est là que je me suis prouvé que ben, je pouvais largement passer de ce que les uns et les autres allaient penser de ce nouveau départ et de ce désaveu, tu vois, parce que beaucoup n'ont pas compris. Et ce que j'ai trouvé chez Beautiful Business, c'est effectivement une zone d'excellence qui me challenge beaucoup, pour dire. Ouais, vraiment, ça me challenge énormément, dans le sens où c'est des nouvelles preuves à faire, tu vois. C'est une nouvelle image à construire sur un nouveau credo. Donc c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de travail et j'avais planifié que cette première année elle allait être intense et elle l'est cette semaine d'ailleurs particulièrement, tu vois, et je dirais que ouais, là le défi en tant qu'entrepreneur il se situe beaucoup au niveau RH, tu vois. Là je me sens très challengée de ce côté-là, au niveau ressources humaines de l'entreprise. Voilà, ça c'est un nouveau chantier, arriver à développer cet instinct spirituel dans le recrutement pour effectivement m'entourer des personnes qui vont durablement pouvoir poser des pierres solides à cette entreprise.
Merci beaucoup, Ikram.
Merci à toi, Emmanuel, de m'avoir invité.
Merci à mon invité d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci à vous pour votre écoute. Retrouvez toutes les références de notre discussion en barre de description. Si vous aimez le podcast, partagez-le et parlez-en autour de vous, à vos amis, à votre famille et même à votre voisine un peu chelou. On peut aussi s'en parler par mail ou sur Instagram à La Zone Podcast. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode.